RBA FM Auvergne-Limousin, RBA.
On n'est pas des Einstein.
On n'est pas des Einstein.
Eh bien, bonjour, on est vraiment content de vous retrouver pour cette sixième émission de la première saison. On est à la troisième émission de l'année 2023, c'est l'émission du mois de mars. Et on est vraiment tous heureux de vous retrouver. On a ici dans le studio Louise, qui est à ma droite.
Bonjour.
Didier, qui est en face de moi.
Bonjour tout le monde.
Et on va retrouver également deux invités aujourd'hui, deux invités de marque qui nous viennent de loin, de très loin. On a d'abord Daniela, qui nous vient du Rwanda.
Salut.
Et Yasser qui nous vient du Maroc.
Salut.
Alors ce sont deux scientifiques et on va découvrir un petit peu leur vie, ce qu'ils font, leur poser plein de questions. On va leur mettre une lampe dans les yeux en disant on a les moyens de vous faire parler. Et voilà. Bon alors aujourd'hui on va commencer par les news, ensuite on va parler des exoplanètes et enfin on parlera du sujet de Louise qui sera...
La zone d'habitabilité.
Eh bien, on va commencer par les news scientifiques du mois. Et est-ce que vous savez ce que c'est qu'un CubeSat? Bon, on en a parlé déjà depuis quelques émissions.
Nous, ouais. On sait bien, oui.
Bon, tout le monde sait bien. Là, et puis, en plus, on est très, très bien placé pour savoir ce que c'est. On y reviendra tout à l'heure. Mais là, il y a un petit CubeSat. Il s'appelle le PicSat, qui est un CubeSat français, qui était dans le silence complet pendant à peu près 4 ans et demi, qui a refait surface, enfin, entre guillemets, puisqu'on a... en fait, on l'a... détecté à nouveau depuis quelques temps grâce à une radio amateur qui a détecté ces signaux radio il y a peu de temps et en fait il avait plus ou moins disparu pendant 4 ans et demi. Donc ce PicSat, il avait été envoyé à la base pour observer les exoplanètes et on a il a enfin fait parler de lui, enfin en tout cas on l'a à nouveau détecté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est incroyable, c'est quelque chose d'assez... ça a beaucoup fait parler dans le monde de l'astrophysique. Les trous noirs sont peut-être la cause de l'énergie noire. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est que l'énergie noire?
Bah non, on ne sait pas, c'est justement pour ça qu'on l'appelle l'énergie noire.
Ouais, c'est ça, on ne sait pas trop exactement. C'est une forme d'énergie qui serait liée... Alors, c'est lié à la matière noire. Alors, pour faire très rapide, en gros... Il y aurait un défaut de masse au sein de l'univers. L'univers pèserait plus lourd que ce qu'il n'apparaît, en gros. Et on a appelé cette différence de masse la matière noire. Et peut-être que cette matière noire viendrait des trous noirs. Donc ce serait... Alors, il y a des scientifiques qui ont lâché un papier il n'y a pas longtemps, qui ont écrit un papier là-dessus, sur des observations qu'ils ont faites, qui corroborent avec cette hypothèse. Et ça a beaucoup fait parler dans le monde de la cosmologie il y a quelques jours, pour cette fin février. Et enfin, dernière news, en Indonésie, on a retrouvé un ADN intact d'une femme de 7200 ans qui révèle une lignée humaine inconnue. On aurait donc découvert une nouvelle lignée humaine. Alors attention, lignée humaine, ouais. C'est-à-dire qu'il y aurait donc plusieurs espèces d'humains, on le savait, hein, jusqu'à le dernier encore vivant, c'était les...
Néandertal.
Et donc, il y a 7200 ans, il y aurait eu encore une lignée humaine de vivante en Indonésie. On vient de le découvrir et c'est à lire dans le magazine Géo. Et Axel qui me dit sur TikTok, yo le prof. Yo Axel. les exoplanètes, on en a parlé là à l'instant avec le fameux CubeSat qui est réapparu, la PicSat qui s'occupait d'étudier les exoplanètes. Et Didier, tu voulais nous parler ce mois-ci des exoplanètes.
Alors d'abord, ce sont les planètes qui sont en dehors du système solaire, qui sont en orbite autour d'autres étoiles. À l'heure actuelle, on sait les détecter, on sait en fait trouver des planètes en dehors de notre système solaire. Ces planètes que l'on appelle exoplanètes, on les détecte grâce à une méthode qui s'appelle la méthode du transit. Il suffit en fait d'observer une étoile et ses environs. Le système en fait rayonne à la fois la lumière de l'étoile et aussi la lumière réfléchie par les planètes. Une planète passe devant l'étoile. L'ombre de la planète en fait fait diminuer la luminosité du système. Et quand elle passe derrière l'étoile aussi, la luminosité diminue. Mmh. Donc quand on observe une étoile, en fait, si on a des diminutions de la luminosité, ça veut dire qu'il y a une ou plusieurs planètes en orbite autour de cette étoile.
D'accord.
C'est comme une éclipse solaire en fait.
C'est le même principe que l'éclipse, sauf que c'est pas totale, quoi. C'est juste une toute petite éclipse, mais qu'on arrive quand même à détecter. Et donc, avec ça, on peut savoir eh bien, le diamètre de la planète, sa masse, son orbite, sa masse et son volume.
Juste,
donc,
juste
avec, en la regardant passer devant son étoile.
D'accord. Ouais. Donc, on détecte, en fait, on analyse, si je comprends bien, on analyse la lumière qui arrive sur nous.
Ouais.
Et c'est cette différence de luminosité, simplement, qu'on
c'est
voit.
C'est ça. Ouais, on va pouvoir, en fait, trouver comment elle orbite, quelle taille elle fait. Du coup, à partir de là, on peut en déduire sa masse, sa densité. Et donc, on sait si elle est faite de gaz, de roche, de...
Et on peut déterminer sa distance à l'étoile ?
Oui, c'est ça. On sait parfaitement à quelle distance elle est. Ouais. Et même là, à partir de la taille de l'étoile, etc., on peut même déterminer sa température moyenne, en fait.
D'accord. C'est énorme.
Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'on sait que elle est faite de gaz, de roche.
Est-ce que c'est la seule façon qu'on a de détecter les exoplanètes ?
Ouais. Alors, il y a d'autres méthodes, mais il y en a une, par exemple, qui, contrairement, vous voyez, à la méthode du transit, où il faut que la planète passe devant l'étoile, si la planète, en fait, on regarde orbite, par exemple, autour de l'étoile, mais sans jamais passer derrière, comme si on regardait le système de dessus, on voit, en fait, l'étoile qui oscille autour d'elle-même, parce que les planètes, en fait, attirent aussi l'étoile. Et donc, en fait, c'est comme une danse. La planète qui tourne fait un peu aussi tourner l'étoile. Et à partir de cette oscillation, on peut déterminer s'il y a une planète en orbite ou pas.
Donc si on voit une étoile qui vibre, ça veut dire qu'il y a des planètes autour.
Voilà, c'est ça. On étudie toutes ces exoplanètes. Elles ont été étudiées au départ par le télescope Kepler, entre 2009 et 2013. Et donc il a observé, lui, une toute petite partie du ciel. Et là, en 2018, en fait, la NASA a envoyé TESS. Donc, TESS, c'est le Transiting Exoplanet Survey Satellite. Donc, c'est un satellite qui, lui, par contre, couvre l'ensemble du ciel, c'est-à-dire 400 fois plus de couverture que Kepler. Pendant 2 ans, il analyse tout le ciel, en fait. Il a découpé ça en 26 secteurs différents, donc avec chacun 90 degrés et puis 24 degrés de largeur. Donc, il analyse toutes les étoiles. Il est moins sensible que Kepler, et il observe des étoiles qui sont 30 à 100 fois plus brillantes, et ça aide à relayer les informations au télescope sur Terre pour qu'il puisse en fait observer.
D'accord.
Donc lui, il détecte s'il y a une planète ou pas, et après, en fonction de ça, les gens peuvent aller chercher, observer de plus près en fait.
D'accord. Tu sais combien ils ont trouvé d'exoplanètes ?
Alors, je crois que c'est autour de 5000 planètes. La moyenne, on a à peu près une planète par étoile. On peut détecter aussi des systèmes de plusieurs planètes. Quoi.
Comme là récemment, avec TOI 700, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps. On a découvert une nouvelle planète autour de ce système. On avait découvert déjà 4 planètes autour du système. Et là, une 5e depuis le mois de janvier, je crois. Et oui, d'ailleurs, si vous voulez observer des exoplanètes en 3 dimensions et visiter toutes les étoiles qu'on a découvertes pour l'instant dans notre galaxie, autour de laquelle gravitent des exoplanètes, vous pouvez regarder Eyes on Exoplanet. NASA.gov, c'est un petit logiciel en ligne gratuit et vous pouvez voyager en 3 dimensions dans les étoiles, voir ce qu'il y a autour et observer des représentations artistiques de chaque planète, puisque on ne peut pas.
Non, on ne peut pas savoir exactement de quoi elles sont composées. Après, c'est des modèles mathématiques avec le volume et la masse, par exemple. On détermine la densité. Ouais, si c'est trop lourd pour être composé uniquement de gaz, en fait, on sait qu'il y a de la roche, quoi.
Ouais, d'accord. Alors d'ailleurs, au niveau des exoplanètes, il existe autour des étoiles qu'on a découvertes une zone autour de laquelle il y aurait possibilité que la vie soit dans cette zone, ce qu'on appelle la zone d'habitabilité, c'est ça ?
On va parler de la zone d'habitabilité d'une planète. Donc déjà, habitabilité, c'est habitat, ça veut dire la zone où on espère pouvoir trouver les conditions qui pourraient mener à la vie telle qu'on la connaît. Et c'est vraiment un raccourci très important qu'on fait pour la zone d'habitabilité, parce que tout ce qu'on cherche, en fait, c'est une zone autour d'une étoile où l'eau peut exister de façon liquide. L'eau liquide, on sait qu'en biologie, là, c'est toi qui pourras peut-être plus en parler, c'est très important pour des réactions qui permettent de faire apparaître des composés chimiques assez compliqués qui peuvent soutenir la vie. Donc la zone d'habilité, c'est cette zone comme une bande autour de chaque étoile dans laquelle on dit, on calcule qu'en fonction de la distance à l'étoile, dans cette zone-là, il fait ni trop chaud ni trop froid, on peut avoir de l'eau liquide. Donc typiquement, dans les exoplanètes dont Didier vient de nous parler, il y en a au moins 70 qui tombent dans la zone d'habitabilité de leur étoile. Et la plus proche, Proxima du Centaure, donc c'est l'exoplanète Proxima B, qui, elle, tombe aussi dans la zone d'habitabilité de cette étoile qui est la plus proche du système solaire.
Ça dépend de l'étoile, alors, la zone.
Oui.
C'est pas une zone fixe.
Non, en fait, en fonction de l'étoile, l'étoile, elle va être plus ou moins grande, plus ou moins puissante, et donc la bande va être plus ou moins large.
D'accord.
Il faut dire que pour notre système solaire, par exemple, la zone d'habitabilité, elle va, en gros, de la limite de Vénus à la limite de Mars. C'est aussi une zone qui peut évoluer, en fait, en fonction de l'âge de l'étoile, justement.
Parce
que l'étoile, elle vit et elle ne va pas avoir les mêmes caractéristiques en termes d'énergie au fur et à mesure de sa vie.
Et oui, alors elle vit dans le sens où l'étoile évolue au cours du temps.
Elle évolue au cours du temps, exactement. La Terre, c'est en plein dans la zone d'habitabilité. Nous, on a sur Terre de l'eau liquide, de l'eau solide et de l'eau sous forme de vapeur, donc de l'eau gazeuse.
Plus on est suffisamment à la bonne distance pour une question de température, etc.
Voilà. Donc ça, c'est une zone qui est très intéressante. Après, il ne suffit pas d'être forcément dans sa zone d'habitabilité pour être forcément habitable. Parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, notamment au niveau de l'atmosphère, au niveau de l'existence ou non d'un champ magnétique, ce qui fait qu'on peut capturer ou garder ou pas l'eau liquide sur la surface de la planète. Inversement, ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans sa zone d'habitabilité qu'on ne peut pas avoir de l'eau liquide. Donc typiquement, dans le système solaire, on a plein d'endroits où on pense qu'il y a de l'eau liquide qui ne sont pas dans les zones d'habitabilité.
Oui.
Notamment au niveau des lunes de Jupiter et de Saturne. Ganymède, Callisto, Titan, Europe, Encelade, Triton, ce sont tous des lunes qui, on pense, abritent des océans liquides en dessous solide.
De glace.
Voilà, de glace. Exactement. Donc tout ça pour dire que la zone d'habitabilité, c'est un paramètre qui est intéressant pour savoir globalement où on peut chercher des endroits où il y a de l'eau. Mais il y a des détails à regarder pour savoir si c'est vraiment le seul endroit où on peut avoir de l'eau liquide.
De l'eau liquide.
Ou pas.
Et oui, parce que quand on prend l'exemple d'Encelade, par exemple, il y a des immenses geysers sur Encelade qui produisent donc une grosse couche de neige, de glace de ces 700 mètres d'épaisseur sur la surface. Si vous voulez plus d'infos, j'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok et YouTube. Aussi, se pose la question de est-ce qu'il pourrait y avoir de la vie dans ces zones de geysers où peut y avoir potentiellement une forte température. Alors c'est de l'eau salée.
Pour l'instant, la vie, on ne la connaît que sous une seule forme.
Oui, c'est ça.
Une vie qui est principalement basée sous forme d'eau liquide, mais qui sait, il y a peut-être d'autres choses qui existent. C'est pour ça qu'il y a un champ de recherche très intéressant sur Terre qui s'appelle les extrémophiles, qui est l'étude de toutes les espèces vivantes qui sont capables de vivre dans des endroits où on ne l'attend pas. Donc, au fond des volcans sous-marins, au milieu des déserts, dans l'Antarctique, très très profond sous la Terre. Et ces extrémophiles-là, en fait, on les étudie sur Terre, mais ils nous apprennent plein de choses sur ce qui pourrait exister
dans
en dehors de la planète
dans
Terre.
Voilà. Notamment des bactéries sur la surface de l'ISS.
Voilà.
Il y a des bactéries qui sont vivantes dans l'espace en dehors de l'ISS, qui sont sur la paroi, on a retrouvé. Et ça faisait au moins un an qu'elles étaient là, d'ailleurs. Eh bien, merci Louise pour ce sujet fort intéressant. On pourrait même développer, enfin, on pourrait en parler pendant des heures.
On pourrait faire une saison entière
sur l'astrobiologie.
Non, mais si ça vous intéresse, suivez astrobiologie et extrémophile. C'est deux sujets qui sont
intéressants.
Extrémophile, c'est moi.
Extrémophile, c'est Philippe.
Et oui, Phil était un
extrémophile.
Yeah.
Eh bien, aujourd'hui, nous avons deux invités, Yasser et Daniela, ou plutôt, je devrais présenter d'abord Daniela et ensuite Yasser. Daniela, qui est non pas étudiante, comme je disais tout à l'heure, je suis vraiment désolé, Daniela, mais vraiment désolé, qui n'est plus étudiante depuis un certain temps, et Yasser, qui lui, par contre, est étudiant. Donc, alors, je vous posais quelques questions, et puis on va vous présenter. Alors, sachez d'abord que Daniela va nous parler un petit peu plus d'elle et de ce qu'elle fait là pour ce mois-ci, pour cette émission. Et puis Yasser, on apprendra un petit peu plus à le connaître dans les émissions prochaines. Mais en tout cas, bonjour à vous. Alors Daniela, toi, tu nous viens donc du Rwanda.
C'est ça.
C'est ça. Et qu'est-ce que tu fais exactement ?
Bon, en ce moment, je suis rédactrice technique à l'organisation de Spring Institute for Forest on the Moon. C'est une organisation qui fait de la recherche spatiale et notre but est de planter des forêts sur la Lune. C'est ça.
Et oui. Alors, il faut préciser que Spring Institute for Forest on the Moon, ça veut dire l'Institut Spring, ça veut dire printemps en anglais.
Printemps.
Exactement, pour les forêts sur la Lune. Et on en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Mais d'ailleurs, alors, tu es rédactrice technique, ça veut dire quoi du coup ?
Ça veut dire que j'écris en fait tout sur des papiers conférentiels sur la recherche que nous faisons à The Spring Institute. Et aussi, je fais de la documentation sur les opérations que nous faisons. C'est en anglais, c'est des Standard of Operating Procedures pour aider les futurs, par exemple, chercheurs qui voudront faire de la même recherche que nous, de pouvoir s'en inspirer pour qu'ils puissent faire de la recherche eux-mêmes.
Si c'est déjà fait, autant continuer la recherche et pas repartir de zéro.
C'est ça.
Ouais, d'accord, ok. C'est pour préciser ce que vous faites plus précisément pour des gens qui voudraient éventuellement faire des recherches dessus après.
Oui.
D'accord, ok. Alors le but de Spring, du coup, alors on va en reparler un petit peu pour ceux qui n'auraient pas suivi les émissions précédentes, on va en reparler un petit peu plus précisément, mais il y a plusieurs missions qui sont en cours, c'est ça, chez Spring. Il y a Serre aussi, du coup, tu es chez Spring. Toi, tu es stagiaire, du coup.
Oui, je fais de la modélisation mécanique 3D. Et en plus, des études thermiques sur... tu as déjà évoqué les nanosatellites, les CubeSats.
Ouais,
et les CubeSats. Dans notre cas, l'une des missions, c'est effectivement d'envoyer un CubeSat avec une plante à l'intérieur. Et du coup, je suis, on va dire que je suis un peu responsable des études thermiques qui vont permettre de faire cette mission.
D'accord. Puisqu'on le rappelle, dans l'espace, hein, on passe de très chaud à très froid. Et il faut prendre en compte tout ça.
Oui, pour exemple, sur la surface de la Lune, par exemple, quand elle est ensoleillée, c'est à 120. Et après, c'est moins 120.
Ouais, donc, il faut prendre en compte tout ça. Bon, on reparlera de ce sujet-là plus en détail pour une prochaine émission. Daniela, comment t'es venue cette idée de travailler chez Spring ?
J'ai toujours été intéressée par la technologie. Au début, moi, je voulais juste être pompier.
Ah ouais, donc, rien à voir avec la science.
Rien à voir avec la science, mais il n'y avait pas de camionnette rouge au Rwanda.
Ah.
Alors l'idée, elle est morte. J'ai dû changer de métier et j'ai fait un bachelor en génie mécanique et énergie.
Ouais.
Ensuite, j'ai été intéressée par l'énergie renouvelable et j'ai fait un master en génie électrique et informatique, mais une focalisation en énergie renouvelable.
D'accord.
C'est pas du tout le sujet de prédilection de Spring, mais étant donné que j'étais passionnée par la technologie, que je trouvais le projet intéressant et j'ai rencontré Louise, la présidente de l'organisation.
Que tu as rencontré au Rwanda ?
Au Rwanda, elle travaillait dans une... on a travaillé dans une compagnie ensemble, mais on ne s'était jamais rencontrés. Et c'est une personne en commun qui nous a liés, en tout cas. Et c'est comme ça qu'on s'est connus.
Et du coup, tu t'es intéressé au sujet. Et puis, au final, tu peux apporter ce que tu as appris, toi, en master, et ce que tu avais fait avant, pour... tu peux l'apporter au projet de Spring, du coup, et apporter une... ta contribution d'un autre point de vue, quoi. Du coup, d'un point de vue de la technologie ou de ce que t'as, de ton domaine, quoi.
Oui, c'est ça. Et à part faire de la rédaction technique, on fait de la sensibilisation pour les communautés qui n'ont pas accès au spatial. Par exemple, dans des pays comme le Rwanda, où il n'y a pas assez de programmes sur le spatial, on essaie de rapporter des programmes comme des hackathons, qui sont des compétitions où des individus peuvent pratiquer le spatial, mais avec des liens avec d'autres technologies comme la biologie, l'ingénierie aussi, l'art aussi.
Et oui, parce que l'une des missions de Spring, c'est aussi de démocratiser la science, le scientifique, en l'occurrence ici la science du spatial, dans des zones où des gens ne peuvent pas avoir, hein, comme tu viens de le dire, hein, Daniela, n'ont pas forcément accès aux scientifiques, à la science. Et justement, le but, c'est de les sensibiliser à ça et pourquoi pas développer des vocations, du coup. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Alors moi, je fais partie aussi de l'association Spring. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans le Cantal. Et toi, du coup, Daniela, tu fais ça au Rwanda.
Au Rwanda, c'est ça.
Alors, on revient vite fait sur le l'hackathon. L'hackathon, c'est un challenge scientifique, en fait. Et t'en organises un au Rwanda, il me semble.
C'est ça. C'est une compétition qu'on essaye de faire durant une durée d'une journée, 12 heures. Et on essaie de faire différents niveaux. Chaque niveau, il y a un niveau plus élevé, un niveau moyen, un niveau débutant. Et pour donner la chance à tout le monde qui voudrait essayer le spatial, qui sont intéressés par le sujet, mais qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir connaître ce que c'est le spatial, ils peuvent, à travers ces compétitions, vraiment avoir accès à ce sujet-là.
Oui, avoir accès à un sujet scientifique, se donner à fond dans un challenge, au final. Et alors, moi, ma question aussi, c'était savoir, est-ce que c'est forcément que des scientifiques qui peuvent participer ou est-ce que ça peut être des gens qui s'intéressent, qui sont passionnés, quoi, juste simplement?
Je pense toute personne qui sont intéressées par le spatial, même si vous n'êtes pas scientifique, vous pourrez participer à la compétition. Comme je l'ai dit, il y a différents niveaux, mais aussi on essaye de d'intégrer différents sujets comme l'art, la biologie et l'ingénierie. Même si la biologie et l'ingénierie, c'est plutôt scientifique, mais aussi on intègre des sujets comme l'art pour que toute personne intéressée par le spatial qui ne sont pas scientifiques peuvent avoir la chance d'y accéder.
Un des sujets qui te passionne aussi, c'est le sujet du réchauffement climatique, puisque tu as travaillé, tu as fait des études dans le développement durable.
Spécialement, dans mon cas, je viens du Rwanda et je vois beaucoup de répercussions du réchauffement climatique dans mon pays, spécialement. Par exemple, on voit beaucoup d'érosion, on voit beaucoup de températures élevées qui sont dues au réchauffement climatique. Et une chose que peut-être les gens ne connaîtraient pas, c'est que l'Afrique ne contribue 2 à 3 % des gaz à effet de serre, mais ils ont les répercussions,
ils subissent
beaucoup plus les répercussions. Voilà, c'est pour ça que ce sujet m'intéresse.
Trouver des solutions éventuellement et puis apporter ta contribution aux études par rapport au réchauffement climatique.
C'est ça.
D'accord, c'est ce que tu aimerais peut-être faire après, plus tard ou
Peut-être, j'aimerais trouver peut-être un lien avec ce qu'on fait dans Spring, parce qu'on fait de la recherche spatiale, oui, mais on essaie de voir, comme mon collègue Yasser l'avait dit, ils font des études thermiques pour voir
la survie. Ouais.
Pour voir la survie, par exemple, dans des conditions extrêmes. Peut-être que c'est des recherches qui pourraient éventuellement être rapportées ici sur notre Terre et qu'on pourrait essayer de trouver des solutions à partir de ça.
Oui.
Voilà.
D'accord. Trouver des solutions, en fait, des technologies qu'on utiliserait qu'on développerait dans le milieu spatial, dans l'espace, mais qu'on exploiterait aussi sur Terre.
C'est ça.
C'est ça, d'accord.
Du coup, d'ailleurs, ce que Daniela vient de dire à propos de l'Afrique, d'ailleurs, nous, cet hiver-là, au Maroc, les barrages, ils étaient tous pratiquement à moins de 30%.
Ah ouais.
Que généralement, ils sont remplis. On a connu une sécheresse cette année-là, qui a des répercussions sur l'économie marocaine.
Qui est énorme, quoi.
Qui est très élevée,
ouais. Et surtout que...
Il n'y a pas eu de pluie.
Moi, j'aimerais poser une question à Daniela, parce que justement, par rapport à ça, à cette différence qu'il y a entre les pays pollueurs et ceux qui en subissent les conséquences, toi, Daniela, pour travailler dans ce milieu, est-ce que du coup, tu voudrais aller dans les pays du Nord pour avoir un changement de politique là-haut, ou est-ce que tu es plus intéressée par faire en sorte que le développement qui a lieu en ce moment en Afrique, il aille vers plus de sustainability et
un
meilleur développement durable. Merci. Ouais.
Ça serait plutôt la deuxième. J'aimerais bien voir, par exemple, je veux donner un exemple du Rwanda. On est en train de développer une facilité qui s'appelle Intego, qui veut dire but. Et cette facilité pourvoient des fonds aux services publics pour qu'ils puissent développer des solutions de développement durable. Mmh. Alors si par exemple une institution publique a une solution à proposer dans le domaine par exemple de smart cities,
des villes du futur quoi, en gros.
Ville du futur, c'est ça. Et ils peuvent déposer leur projet et le voir, trouver un fonds pour développer ce projet et ensuite le développer dans le pays. Et si ça fonctionne, il y a aussi possibilité de faire connaître ce projet à différents pays aussi. Mmh. Alors ça c'est, je trouve que c'est intéressant. C'est bien d'aller voir ce qui se passe dans le Nord, mais je pense aussi que l'Afrique peut développer ses propres solutions.
Oui, complètement.
C'est pas aller au Nord que tu vas trouver des solutions. Il y a aussi des solutions locales qu'on peut trouver et développer.
Il y a tellement de gens qui ont peut-être des ressources, des idées, des solutions, des trucs à apporter et qui sont...
Ce que je voulais dire, c'était plus que justement les problèmes, ils sont au Nord. C'est pour résoudre le problème
résoudre
du Nord.
Résoudre le problème du Nord, c'est ça.
Les solutions, elles sont en Afrique et c'est ça qui est fabuleux, c'est de voir justement à quel point le continent, il va dans la bonne direction, mais que le problème, c'est le Nord.
C'est le Nord.
Nord.
Non, mais c'est ça, c'est vrai, c'est le pays occidentaux qui... Et il y a une prise de conscience quand même, mais elle est légère, on va dire. Elle est légère. Mais
il y a, et fragile, quoi.
Si on voit le côté positif, il y a une petite prise de conscience quand même. Et heureusement, je pense qu'il faut prendre cette côté positif, cette prise de conscience et la développer, quoi. C'est ce que tu fais, du coup, toi, Daniela, c'est ça aussi. Hein. Tu participes à ça. Hein. On te remercie pour ça. Voilà, on te remercie pour ça. Merci Daniela. Moi, j'espère qu'on pourra te retrouver pour pourquoi pas une prochaine émission aussi pour d'autres sujets.
Merci
et puis voilà. Vous pouvez retrouver donc Daniela sur LinkedIn sur la page Daniela
Ngarambe.
Ngarambe, ça s'écrit comment du coup?
Ngarambe.
Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Bon, et bien, cette émission touche à sa fin. Merci à vous tous d'avoir participé aujourd'hui. Nous, en tout cas, on était contents de vous retrouver pour cette session. Au revoir, à la prochaine.
Au revoir, à bientôt.
Allez. Au revoir, à bientôt.
Salut tout le monde, ciao.
Jingle.
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 Une émission radiophonique, scientifique, podcastique et radioactive.
On n'est pas du tout des Einstein.
Oui, tout est relatif.
RBA FM Auvergne-Limousin. RBA.